Art, Culture et Patrimoine.
Une émission présentée par Christelle de Limerville.
À l'occasion de la clôture du jubilé des 150 ans de l'apparition de Notre-Dame à Pontmain, l'écrivain Anne Bernet publie une imposante biographie de l'abbé Michel Guérin. Son titre, La simplicité et la grâce, Michel Guérin, le petit curé de Pontmain. C'est aux éditions Artege, un ouvrage de 637 pages. Bonjour Anne Bernet.
Bonjour Christelle.
Alors, je dis ouf, vous avez conclu en temps et en heure ce gros travail, mais en fait, il était conclu depuis plus d'un an, c'est ça?
Il était conclu depuis quasiment 2 ans. Ce livre aurait dû sortir pour l'ouverture du jubilé l'an dernier. Les circonstances sanitaires ont fait que nous avons été obligés de repousser d'une année pleine la parution de cet ouvrage qui était prêt, terminé, qui aurait dû se retrouver en librairie il y a bien longtemps.
Ah oui, ça c'est dommage. Mais bon, rien n'est perdu. Et je rappelle quand même que vous êtes la postulatrice de la cause de béatification de l'abbé Guérin, procès ouvert en 2013 maintenant. L'abbé Michel Guérin est né à Laval en 1801, il meurt à Pontmain en 1872. Un an après l'apparition. Alors, avant de feuilleter ensemble cette biographie, pourquoi dans le titre dites-vous Michel Guérin, le petit curé de Pontmain ?
Le petit curé de Pontmain, c'était le surnom que lui avait donné un certain nombre d'ecclésiastiques de la région. Et Monseigneur Vicard, le premier évêque de Laval, avec les uns et les autres une certaine condescendance vis-à-vis d'un prêtre qui était à la tête d'une très petite paroisse particulièrement perdue et que l'on regardait avec un certain mépris, un peu de commisération et paradoxalement souvent beaucoup de jalousie.
Alors, comme vous le connaissez vraiment bien, maintenant c'est devenu un ami pour vous, j'imagine, l'abbé Michel Guérin, est-ce que vous avez découvert, dans toute son histoire, quelques défauts ou manies ou petites faiblesses?
Tout le monde a des défauts et des manies, et c'est le rôle du postulateur de ne pas cacher ce genre de problème. J'avoue que chez l'abbé Guérin, elles ne sont pas excessivement nombreuses. C'est un homme mortifié qui, par moments, peut avoir un mauvais caractère qu'il domine avec un trait d'héroïcité des vertus. Il domine ce mauvais caractère. Je ne le prends qu'une fois dans sa vie à la laisser éclater, cette colère, dans des circonstances qu'on peut comprendre. Par ailleurs, oui, il a une manie, puisque vous parlez de manie, c'est un collectionneur de reliques, ce qui à l'heure actuelle peut nous sembler un peu bizarre, mais lui collectionne frénétiquement les reliques dans la pieuse intention d'apporter à sa paroisse un maximum de protection céleste. Mais lorsqu'il se met en tête d'acquérir certaines reliques, il devient totalement obsédé, il est capable de tout, de poursuivre des gens qu'il ne connaît même pas, de sollicitations de plus en plus délirantes. Il se fait systématiquement envoyer promener, mais il ne lâche jamais, car qualité ou défaut, chacun en jugera. L'abbé Guérin est un obstiné extraordinaire, il est bien mayonné.
Certaines descriptions m'évoquent beaucoup le curé d'Ars. Par exemple, vous dites, page 523, « L'abbé Guérin manquait toujours de bois à force de distribuer ses réserves aux pauvres ». Il avait une grande attention aux pauvres aussi.
L'abbé Guérin avait été pauvre, moins que l'étaient les gens dans son entourage, mais il avait connu, sinon la misère, du moins la grande précarité. Il en gardait l'expérience, il savait ce que c'était d'être dans le besoin, il était donc spécialement attentif aux nécessités de son petit peuple. Par ailleurs, il était pénétré d'esprit de charité, donc très attentif à la nécessité de faire l'aumône. Pontmain était connu pour être une des paroisses de l'Ouest les plus généreuses, en dépit de sa grande pauvreté matérielle. Et l'abbé Guérin lui-même donnait l'exemple en se dépouillant strictement de tout. Vous parlez du bois, mais c'est vrai également de ses provisions, c'est vrai de son linge, c'est vrai de ses vêtements, c'est vrai de tout. Les bienfaitrices de la paroisse savaient, comme elle le disait, renoncer à le rhabiller, puisque de toute façon, ces nippes iraient systématiquement aux pauvres.
Exactement le même profil que le curé d'Ars, hein, on lui mettait même plus de chemise toute neuve, puisqu'on savait qu'elles allaient filer immédiatement chez les pauvres.
Alors il ne faut pas non plus se tromper, c'est le cas de nombreux prêtres, voire de nombreux évêques à l'époque, qui sont d'une grande charité. L'évêque du Mans, Monseigneur Bouvier, qui était également l'évêque de l'abbé Guérin dans sa jeunesse, était connu pour une générosité proverbiale et pour ne porter sous ses vêtements épiscopaux que des loques, que la mère Thérèse Rondeau, la fondatrice de la Miséricorde, était la seule à rapiécer discrètement pour cacher que Monseigneur avait une fois de plus donné son linge aux miséreux.
Ah oui, mais ça, ce sont des choses qu'on ignore complètement.
Mais il y a beaucoup de choses qu'on ignore. On a des idées fausses sur le clergé du 19e.
Oui. Et comment décririez-vous la dévotion de l'abbé Guérin à Marie ?
Filiale. L'abbé Guérin n'a qu'une mère. Je ne dis pas qu'il n'aime pas sa véritable maman. Mais il n'a qu'une mère depuis son enfance, c'est Notre-Dame. Et il est totalement donné à elle. C'est un prêtre marial qui, dès le début de sa vie sacerdotale, va tout remettre entre les mains de Marie, qui va bien s'en porter. Alors là encore, il va faire l'objet d'un certain nombre de plaisanteries de la part de ses confrères. On sait que lorsqu'il fera cadeau à ses paroissiens, à chaque famille, d'une statue en faïence de la Vierge, on l'appellera en riant, avec un peu de méchanceté, le curé aux bonnes Vierges.
Oui, oui.
Mais il a raison, il remet tout entre les mains de Marie, ça lui réussit très bien.
C'est étonnant parce que j'ai rencontré pas mal de petits-enfants du Nord-Mayenne, souvent catéchisés par leur grand-mère. Et quand ils parlaient de la Vierge, ils disaient la Bonne Vierge. C'est il y a 20 ans. Hein.
Mais ça peut-être resté. En Mayenne, on dit la Bonne Vierge.
Ah oui, toujours.
On disait, jusqu'à une date récente, on disait la Bonne Vierge. La Bonne Mère dans le Midi, mais la Bonne Vierge en Mayenne.
Alors, dans votre livre, bien sûr, l'apparition y est décrite. C'est ça qui motive aussi ce livre et ce procès en béatification. C'est très vivant, vous y mentionnez les expressions en patois des enfants, mais ça n'est pas le cœur du livre.
Ce n'est pas le cœur du livre. C'est ce que je dis toujours. Quelquefois, à la suite de mes conférences, des auditeurs me disent « Mais pourquoi voulez-vous béatifier ce brave prêtre qui n'a pas vu la Sainte Vierge ?» Je leur dis, ce n'est pas la béatification n'est pas obtenue par un phénomène miraculeux du type apparition. Des gens ont pu voir la Sainte Vierge, je pense aux voyants de la Salette et à bien d'autres, la liste est longue, qui n'ont jamais été béatifiés. Mmh. En revanche, on n'a pas béatifié Bernadette Soubirous ou Catherine Labouret parce qu'elles avaient vu la Sainte Vierge. On les a béatifiés pour la perfection de leur vie religieuse, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc, ce que l'apparition du 17 janvier 71 couronne chez l'abbé Guérin, c'est une vie de labeur sacerdotal, inlassable, dévouée, parfaite,
exemplaire,
sans aucune manifestation extraordinaire jusque-là, sans charisme. Je vous parliez du curé d'Ars tout à l'heure, mais le curé d'Ars, tout le monde connaît les miracles qui l'accompagnent,
oui.
Même s'il se donne un mal horrible pour les cacher. L'abbé Guérin, il ne fait pas de miracle.
Aucun n'est recensé.
Aucun n'est recensé, c'est un prêtre on ne peut plus ordinaire. C'est un saint homme, mais un saint homme caché, qui a une vie ordinaire. Je suis très touchée lorsque des prêtres, des séminaristes, des évêques et même des cardinaux me disent « Mais le curé d'Ars, c'est notre patron, on l'aime beaucoup, mais on sait d'emblée qu'on ne pourra jamais l'imiter. » Parce que les charismes du curé d'Ars, on ne les a pas. Alors que l'abbé Guérin, c'est la vie réelle, c'est la vie quotidienne. C'est un modèle qu'il est très facile de mettre en œuvre d'un point de vue sacerdotal. L'abbé Guérin, s'il ne s'était rien passé le soir du 17 janvier 71, il n'en aurait pas moins été un saint. Simplement, ce soir-là, dans un moment de déréliction absolument extraordinaire, avec même pour lui le sentiment que tout ce qu'il a fait a été fait en vain, eh bien, la Sainte Vierge apparaît pour couronner l'œuvre de son dévoué serviteur et montrer que cette œuvre a été entièrement conduite sous sa direction. Et ce qui est extrêmement touchant, c'est de voir dans chacun des thèmes de l'apparition reparaître les thèmes des très grands sermons de l'abbé Guérin.
Lesquels, par exemple?
Oui. Par exemple, son catéchisme sur la croix, sur l'amour de la croix, sur la dévotion de la croix, et qui revient sans arrêt dans la pensée de l'abbé Guérin et qui est au cœur de l'apparition. On est toujours fixé sur le message de Paumain parce qu'il est consolant. Mmh. On oublie tout ce qui concerne la partie avec le crucifix rouge. Oui. Or, ce crucifix rouge, il renvoie, entre autres choses, à cet enseignement de Michel Guérin, qui est un enseignement classique, il ne faut pas rougir de la croix. Celui qui rougira de moi devant mon Père, j'en rougirai devant les anges. Bon, l'abbé Guérin le sait, il n'a cessé de l'enseigner. La Sainte Vierge reprend cet enseignement avec le crucifix rouge, avec cet amour des croix, cet amour des peines, cet attachement à Jésus crucifié.
Et vous les avez donc mentionnés, certains extraits de ces homélies, bien sûr.
J'ai largement cité les sermons de l'abbé Guérin, ce qui nous reste, puisque malheureusement, sur les 700 recensés, les 9 dixièmes sont perdus.
Parce qu'il écrivait en plus, enfin c'est encore autre chose, son dière, ce qu'on appelait son dière.
C'était une obligation faite aux prêtres de tenir le dière, c'est-à-dire une sorte de chronique paroissiale. Dans certains cas, tout dépendait des prêtres. Pour certains, c'est une espèce d'agenda extrêmement sec. Pour d'autres, un véritable journal intime. Dans le cas de l'abbé Guérin, on a quelque chose un peu entre les deux, avec par moments des mentions assez personnelles, donc très intéressantes. Pour d'autres, des choses plus sèches. Mais c'est tout de même un document extrêmement précieux et qu'il tient avec infiniment de soin et d'attention.
Au petit musée des voyants, on peut voir certains feuillets de son dière.
Certaines pages du dière, oui, entre autres choses. Oui.
Je vous propose une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes avec Anne Bernard. Bien sûr, Fidélité Mayenne, je suis toujours en compagnie d'Anne Bernet, avec qui nous feuilletons son imposante biographie de Michel Guérin, qui s'appelle « La simplicité et la grâce » aux éditions Artege. Michel Guérin, le petit curé de Pontmain. Vous nous avez expliqué pourquoi il y avait cette mention de petit curé. Quel avait été le contexte de l'enfance et des premières études de Michel Guérin, né à Laval ?
Michel Guérin appartient à une famille très modeste de tisserands, plus exactement de lavandiers, c'est-à-dire que ses parents préparaient des toiles de lin qu'ils mettaient à blanchir sur les berges de la Mayenne. C'est une profession qui a subi de plein fouet la crise économique du textile liée aux guerres de la Révolution et de l'Empire. Les Guérin vont survivre très péniblement. Ils ont la chance que le grand-père soit fonctionnaire des douanes. À ce titre, il y a un salaire fixe qui rentre, ce qui leur épargne de sombrer dans la misère noire qui est le lot de la majorité des tisserands lavallois au début du XIXe siècle. Mais les malheurs s'accumulant, en 1814 et 1815, Michel Guérin va perdre coup sur coup son père, qui disparaît jeune, et son grand-père l'année suivante, de sorte que ce petit garçon de 14 ans se retrouve absolument seul avec sa mère, obligé de gagner son pain quotidien. Cela nous horrifie, il faut se souvenir que dans le contexte de l'époque, être orphelin à 14 ans, c'est d'une banalité affligeante, et travailler à cet âge-là, c'est le lot de la plupart des enfants. Donc ça n'a rien d'extraordinaire, on ne va pas du tout compatir au malheur de Michel Guérin, on va trouver ça normal. Il va se retrouver dans l'atelier familial. Il faut imaginer cet atelier qui a dû être démoli dans les travaux du Second Empire. On ne peut pas retrouver l'endroit exact où il se trouvait. On l'a cherché, on ne l'a pas retrouvé. C'était probablement au coin de la rue du Mans.
Dans le quartier Saint-Vénérand.
Dans le quartier Saint-Vénérand-Saint-Michel. Mais l'abbé Guérin, il donc travaille dans cette maison qui a un sous-sol, c'est une maison de tisserands. Les métiers à tisser sont dans le sous-sol. Il y fait très humide, puisque le fil de lin a besoin d'être humide. Le jour n'y pénètre quasiment jamais. On est éclairé par une mauvaise bougie. Il fait froid, il fait humide, il fait noir. C'est extrêmement pénible. Vous commencez, il est 5 heures du matin, vous arrêtez quand vous n'y voyez plus du tout. La santé en souffre énormément, mais l'abbé Guérin voit bien autour de lui ces gens qui disparaissent prématurément rongés par la tuberculose ou qui deviennent aveugles. C'est l'autre maladie des tisserands. Ajoutez à cela qu'à force d'être cassés sur le métier, ils deviennent bossus. Donc c'est un métier extrêmement pénible, extrêmement dur. Et ce n'est pas ce qu'il veut faire. À quel moment est-ce qu'il a entendu l'appel de Dieu? La réalité est que nous n'en savons rien. Il ne s'est jamais confié à ce sujet. La situation matrimoniale de ses parents vis-à-vis de l'Église est un peu compliquée dans la mesure où ils se sont mariés devant un prêtre constitutionnel.
Ils n'avaient pas le choix.
Ah si, si, ils avaient le choix.
Ah oui.
Mais je crois que c'est de l'ignorance pure et simple. Ils ne se sont pas du tout rendu compte que leur mariage était invalide aux yeux de l'Église. Donc, je pense que dans le contexte de l'époque, vis-à-vis du clergé, l'abbé Guérin ne devait pas être dans une situation extrêmement facile. Les choses ont dû s'arranger parce que, comme me le disait un prélat romain à qui je posais la question parce que ça m'inquiétait, il m'a dit « Vous répondrez que vous n'avez pas retrouvé les actes prouvant la régularisation du mariage de ses parents, donc de sa naissance ». Mais que si on l'a accepté au séminaire, c'est que les choses étaient en ordre, ce qui me semble une réponse de bon sens.
Oui, oui.
Il faut savoir que sans ça, il aurait été considéré comme bâtard et que la bâtardise était un empêchement définitif à l'ordination.
Donc il va rentrer
donc,
au séminaire.
Il n'entrera pas au séminaire tout de suite parce qu'il est fils unique et que sa mère va très probablement, malgré les pieuses légendes qu'on a pu longtemps véhiculer, va probablement s'opposer à la vocation de ce fils. Il a 21 ans, il est donc majeur, lorsqu'il va en effet toucher sa part du très petit héritage familial et probablement s'en servir pour payer ses études sacerdotales au séminaire du Mans. Des études qui seront convenables sans plus, il faut penser que c'est à la différence de ses camarades qui sont passés par le petit séminaire, qui ont fait des études secondaires, c'est un enfant déscolarisé à 14 ans dont nous parlons. Il est intelligent. Il est même très intelligent, mais il faut rattraper les difficultés, il faut rattraper les retards scolaires. Il fait de son mieux, mais il ne fait pas partie des sujets d'élite que l'on envoie, par exemple, poursuivre leur cursus universitaire au séminaire Saint-Sulpice à Paris et ici. Non, l'abbé Guérin est un garçon qui ne brille pas particulièrement, sinon par sa grande charité et ses grandes vertus. Mais il a la chance d'être remarqué par le directeur du séminaire du Mans, futur évêque, Monseigneur Bouvier, qui lui-même est mayennais et natif de Saint-Charles-la-Forêt. Il va y avoir un lien assez difficile d'apprécier la teneur exacte de l'affection qui va lier l'abbé Guérin et Monseigneur Bouvier. Il y a une relation père-fils, très manifestement. Mais une très grande discrétion de la part de l'un et de l'autre, rien n'est manifesté. Il ne fait aucun doute cependant que l'abbé Guérin a une confiance en celui qui sera plus tard son évêque, qui dépasse les relations ordinaires entre un prêtre et l'épiscopat. Et de son côté, Monseigneur Bouvier protégera toujours ce jeune prêtre, même quand il prendra des initiatives mal perçues par d'autres. Ce qui est remarquable, c'est que Monseigneur Bouvier n'a pas du tout l'intention de conduire l'abbé Guérin vers une cure rurale. Ce n'est pas un paysan, l'abbé Guérin, c'est un citadin d'une famille citadine depuis plusieurs générations, c'est un artisan. Il n'a aucune familiarité avec la campagne, donc logiquement, on devrait lui confier une petite paroisse citadine dans un gros bourg ou quelque chose comme ça. Il va refuser. Il faut se resituer dans le contexte du début de la Restauration, dans ces années 1820, où l'on répare très lentement les dégâts de la Révolution, où les vocations tardent encore à se manifester, où les prêtres d'avant la Révolution meurent abondamment, on n'arrive pas à les remplacer. Donc on pourvoit, c'est peut-être une erreur, on pourvoit d'abord aux cures des grandes villes, on assure une présence dans les villes et on délaisse très largement les paroisses et les campagnes rurales. Le problème, c'est que, c'est là où se situe l'erreur, les villes sont déjà très largement déchristianisées. On essaye de sauver des choses qui sont déjà perdues, tandis que les campagnes restent beaucoup plus catholiques que si l'on avait maintenu une présence sacerdotale là-bas, on aurait certainement sauvé davantage de tissus catholiques. Ce que certains comprennent, c'est le cas d'un des jeunes professeurs du séminaire du Mans, l'abbé Basile Moreau, qui d'ailleurs a été béatifié voilà quelques années. Basile Moreau est un prêtre remarquable. Lui aussi, c'est un fils de paysan. Et à ce titre, il est bouleversé de l'abandon des campagnes françaises. Il finira d'ailleurs par fonder un mouvement pour l'évangélisation des campagnes, avec des prêtres totalement dévoués à cela. C'est d'ailleurs ce qui est très, très surprenant dans l'affaire, c'est que l'abbé Moreau est un peu en porte-à-faux vis-à-vis des prises de position du supérieur du séminaire, l'abbé Bouvier. Ils ne s'entendent pas magnifiquement. Tout le monde sait les liens de l'abbé Guérin avec l'abbé Bouvier. Pourtant, au moment de choisir une affectation, il se rangera dans le camp de l'abbé Moreau et demandera l'un de ses postes à la campagne dont personne ne veut. Je soupçonne même que la première raison du refus de l'abbé Bouvier de lui donner ce poste, c'est un sentiment de vague trahison. Comment il se range du camp de l'abbé Moreau ? Quelle horreur !
Ah oui, oui. Des querelles.
Querelles sacerdotales.
Querelles sacerdotales et humaines. Et donc, c'est en allant d'abord à Saint-Hélier qu'il va découvrir, que l'abbé Michel Guérin va découvrir Romain.
On va donc lui donner Saint-Hélier, qui est une paroisse perdue. Il ne faut pas oublier que le diocèse de Laval n'existe pas. C'est le diocèse du Mans qui est le plus grand de France et un des plus grands d'Europe. Aujourd'hui, ça nous semble absolument dérisoire, mais il y a eu une époque où les transports ne tendent pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Puis, il faut imaginer que se rendre de Laval au Mans, les 70 km par la diligence, s'il fait beau, c'est 12 heures de route. Et si vous allez plus loin, si vous voulez vous rendre jusqu'à Saint-Hélier, eh bien, vous allez y passer la journée, voire davantage. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où vous vous enfoncez dans les trous perdus, personne n'ira plus vous y chercher.
Non, on y reste.
On y reste. Vous y êtes pour le restant de vos jours. D'où le peu d'enthousiasme des jeunes prêtres à aller se perdre là-dedans. D'autant qu'ils n'y seront pas payés, ou quasiment pas payés. Ils n'y auront pas de casuel. Leur salaire sera réduit à la triste portion congrue, c'est-à-dire à peu près 150 francs. Parents, ils vont crever de faim, crever de misère, même s'il s'agit de francs or, bien entendu. Mais enfin, il faut savoir que pour s'en sortir, le salaire minimal de base annuel, c'est 300 francs. Oui. Donc même s'ils ont un toit sur la tête, c'est la misère, et l'on comprend bien que personne n'en veut. Le curé et le vicaire de Saint-Hélier sont morts à quelques mois d'intervalle à la fin de l'hiver 1829, et on n'arrive pas à les remplacer. On finit par trouver un prêtre de 28 ans, pour prendre le poste de curé, parce qu'être curé à 28 ans, c'est une aubaine, même dans un bled perdu. Par contre, pour lui trouver un vicaire, il faut tout le dévouement de l'abbé Guérin pour l'accepter. Et il faut savoir que pendant les trois premières années de son ministère à Saint-Hélier, l'abbé Guérin ne touchera pratiquement pas un sou, n'oubliera tout bonnement de le payer.
Oui, la fabrique
ne le paiera pas.
Tout le monde était pauvre.
Pas au point de ne pas pouvoir payer le vicaire.
Ah oui. Donc il est remarquable aussi pour tout ça.
Il est remarquable de dévouement, d'abnégation, de charité, de volonté d'aller là où Dieu l'appelle et de faire ce qu'un prêtre doit faire, c'est ramener les âmes à Dieu.
Oui, il va vraiment merveilleusement remplir ce rôle. En tout cas, votre biographie est tout à fait passionnante. Et puis, bien sûr, tout le contexte historique, religieux est très fourni. Ce que j'aime aussi, c'est un peu à la fin, après l'apparition, le lendemain de l'apparition, on voit un petit peu l'émotion que laisse percer l'abbé Guérin, qu'il laisse très peu voir au long de sa vie, même dans son dière. Tout le monde est allé se coucher le soir de l'apparition et le lendemain, l'abbé Guérin raconte à l'abbé Père de Rose ce qui s'est passé. Submergé d'émotion, il se mit à pleurer et entre deux sanglots répéta « Mais moi, monsieur l'abbé, moi, je ne l'ai pas vu. Il avait 70 ans. »
C'est le crève-cœur de l'abbé Guérin qui pense avoir démérité puisqu'il n'a pas vu la Sainte Vierge. Je le disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de voir la Sainte Vierge pour être un saint. Et l'abbé Guérin est un saint. Par contre, ce qui est absolument évident, c'est que la Sainte Vierge, elle, l'a vu. Et puisque chaque phase de l'apparition, chaque initiative de l'abbé Guérin entraîne une réaction de la Sainte Vierge. D'ailleurs, l'apparition ne commence vraiment qu'avec l'arrivée de l'abbé Guérin, qui, pour la première fois dans l'histoire des grandes apparitions mariales du XIXe siècle en France, sera sur les lieux de l'apparition. On sait que Notre-Dame a chaque fois demandé aux voyants d'aller trouver les prêtres, d'aller parler aux prêtres, de leur demander de venir. En général, ils ne se sont pas manifestés. L'abbé Guérin est le premier à se précipiter. Il est bien un prêtre marial de bout en bout.
Merci beaucoup Anne Bernet. Je conseille vraiment cette biographie passionnante, colorée, vivante, qui se lit extrêmement facilement et très fournie. Donc c'est La simplicité et la grâce, Michel Guérin, le petit curé de Pontmain, aux éditions Artege, que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies. À très bientôt. Merci Anne Bernet.
Merci à vous.